nous sommes de retour dans l'Afterwork. Nous sommes mercredi. On commence tout de suite les 5 minutes d'histoire. Salut Olivier.
Salut Cyrielle, bonjour à toutes et à tous.
Donc dans l'édition précédente, on parlait du Vatican. Tu as encore quelques infos à nous donner sur le sujet, avec éventuellement aussi une petite erreur qui a été faite à l'émission précédente.
Voilà, alors quelques petites précisions et puis surtout une erreur. Alors j'ai réécouté le podcast et je me suis aperçu que dans la précipitation, j'avais oublié de parler de deux petites choses. Alors la première, c'est que je vous ai dit que le premier siège de la chrétienté se passait à Antioche, à Constantinople. Eh bien non, c'était à Antioche. Alors vous allez me dire quelle est la différence entre les deux. Alors Antioche, pour rappel, c'est une ville qui est dans la province turque du Hatay. Et Constantinople, on l'appelle Istanbul aujourd'hui. Alors la distance entre les deux, c'est quand même 1000 km, donc vous excuserez cette erreur, ce petit lapsus qui n'était absolument pas révélateur. Mais voilà, on est bien d'accord que le premier siège de la chrétienté avant Rome, c'est Antioche.
On ne t'en tiendra pas rigueur.
Voilà. Et puis une précision que j'ai oublié de vous donner, je vous ai dit que je vous la donnerais, j'ai oublié de vous la donner, c'est pour le film Farinelli, l'extrait qu'on vous a fait écouter de 3 minutes et quelques la semaine dernière, qui est superbe, hein, moi qui me donne des frissons, je voulais vous préciser que c'est pas un enregistrement de castra, bien entendu, hein, ce sont deux voix, alors pour info, c'est une voix de contre-ténor et une voix de soprano, qui ont été mélangées dans un studio multimédia, et ça a permis de recréer à peu près ce à quoi devait ressembler la voix d'un castrat, hein, parce qu'à l'époque on parlait d'une tessiture vocale, ou plutôt si vous préférez d'une capacité de voix qui s'étendait sur 4 octaves, hein, mais 4 octaves plein et entier, quoi, hein, c'est-à-dire pas juste j'arrive à monter une note sur l'octave supérieure et puis basta, quoi. Non, il jouait toute la gamme sur 4 octaves, c'est très très impressionnant.
Oui, car il y a très peu d'enregistrements.
Ben c'est ça, voilà, le seul enregistrement, enfin les rares enregistrements qu'on a, ben c'est sur des disques de cire, hein, comme on l'évoquait la semaine dernière, et ces disques de cire, ben vous imaginez bien l'état dans lequel ils sont, on arrive à lire, mais c'est pas la qualité Dolby, Stereo, Surround et tout ce que vous voulez, j'en passe et des meilleurs.
Le dernier sujet à propos du Vatican, ce sont les archives secrètes.
Voilà, alors ces archives, ça porte le nom là, hein, la bibliothèque du Vatican s'intitule Archives secrètes, au moins ça a le mérite d'être clair. Hein, ces archives, vous les voyez notamment sous forme de film, lorsque vous suivez le film avec les aventures du professeur Langdon dans Ange et Démon. Vous le voyez à ce moment-là pris au piège, arrivant difficilement à s'extraire comme par miracle, etc. Enfin bref, je passe un petit peu là-dessus.
Ces archives, c'est d'abord le récit d'un pillage.
Voilà, un pillage, celui de l'université d'Heidelberg, dans le land du Bad Württemberg, donc pas très loin de chez nous, en 1623, et ça sur ordre plus ou moins réel du pape. Alors imaginez la tête des habitants de la dite ville, hein, pour l'anecdote, lorsqu'ils se sont vus prêter par le Vatican les pièces de 1623 qui leur avaient été volées et qu'elles ont été ensuite rapatriées à Rome. Je vous parle de quelque chose qui s'est passé dans les années 1986, je crois. Alors vous imaginez la tête de ces habitants, hein, le Vatican leur dit « Je vous prête les pièces, mais en fait elles vous appartiennent, mais c'est pas grave ça, hein, on s'en fiche un peu, enfin voilà. » Et ce lander, si j'ose dire, ben c'est presque de l'histoire locale, hein, puisque c'est le lander le plus proche de chez nous, avec notamment les villes de Fribourg, Karlsruhe, n'est-ce pas, si on prononce ça à l'allemande, ou bien encore Ulm. Voilà. Et parenthèse d'ailleurs, nous accueillons aujourd'hui un pur produit de cette nouvelle régionalisation, de ce Grand Est, hein, parce que Florent, notre médiéviste, qui est champenois d'origine, nancéen d'adoption et résident alsacien de fait comme de cœur, va venir nous parler médiéval.
Sur la richesse de cette bibliothèque, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ?
Oui, alors quelques mots, hein. Il ne s'agit pas non plus de faire un catalogue, hein. C'est l'occasion de le dire, mais on peut parler d'une bibliothèque qui est antique, médiévale, moderne et contemporaine, au sens historique du terme, hein. Moderne, je rappelle, c'est entre 16e et 18e siècle, et contemporaine, bah, c'est à partir du 19e siècle. Alors, si je reprends le livre dont je vous avais parlé la semaine dernière, à savoir le roman du Vatican secret, que je vous recommande vraiment, parce qu'il est très intéressant, hein. On parle là-dedans d'1,5 million de livres anciens. Alors déjà voilà, hein, 8300 incunables, alors je rappelle un incunable c'est un ouvrage qui a été imprimé avant 1500, des milliers de gravures et de cartes de géographie, alors c'est pas la carte version 19e siècle, hein, c'est les cartes antiques et médiévales, hein. 300 000 monnaies et médailles, 20 000 objets d'art et surtout le Codex Vaticanus. Alors j'explique, c'est le plus ancien manuscrit de la Bible qui a été écrit en grec au 4e siècle sur velin. Voilà. Et alors là, je peux vous dire que ça vaut le coup. J'aimerais bien le voir un jour. Voilà. Voir le Codex Vaticanus et mourir. Et tout en dessous, après avoir passé le sous-sol de cette bibliothèque d'archives secrètes, vous arrivez aux documents les plus précieux de l'histoire, qui sont consultables, ou du moins visitables, sur permission personnelle du préfet de la bibliothèque du Vatican, c'est-à-dire un cardinal. Voilà.
T'aurais quelques données au niveau de l'aspect, des aspects techniques ?
Oui, pour nos auditeurs, histoire que vous voyez bien un petit peu ce à quoi ça ressemble. Bah, il faut s'imaginer deux blocos, alors il parle de chambres fortes, moi j'appelle ça blocos, je suis désolé, hein, mais de 550 mètres carrés chacun, hein, entourés par un grand vide a priori. On parle dedans de richesses, alors dedans, là c'est les pièces les plus rares hein, qui sont dedans. Donc vous avez des exemplaires, des écrits originels de Ptolémée, rien que ça, voilà. La Divine Comédie de Dante, originel, illustré par Botticelli, hein, le peintre, donc c'est quand même pas rien. Les archives originelles du procès des Templiers, alors ça, même chose, alors là, ça, c'est un truc, il faut se damner pour y accéder à ça.
J'ai l'impression d'être en plein Da Vinci.
Mais là. C'est ça, des écrits de Luther, originels à nouveau, et aussi de Galilée, etc., etc. Voilà, donc, et puis je vous ai pas tout cité, là, je vous laisse à peine imaginer. Et puis alors, il faut savoir que cette bibliothèque, parce qu'il y a quand même 80 km d'archives, cette bibliothèque n'existe que parce que le Vatican, qui a le sens commercial des affaires, on va pas se mentir, fait financer la construction de, de ces bâtiments, de ces blocos, en permettant à des maisons d'édition de retranscrire les manuscrits originels. Voilà, donc c'était des sortes de contrats d'édition, et ces contrats d'édition, ça allait très loin, puisque par exemple, on a parlé de, je ne sais plus pour quel exemplaire, qui a été tiré à 1500 ou 2000 exemplaires, par ce contrat entre maisons d'édition et Vatican. Chaque exemplaire du manuscrit originel réédité valait 8000 euros. Chaque exemplaire. Donc vous imaginez un peu, c'est pas le livre de poche que vous achetez à 8,90€ à la Fnac. Hein, voilà, donc vous voyez un petit peu comment on peut monnayer un petit peu la connaissance historique. Enfin bref, vous l'avez compris, bien des choses. Et j'ai envie de poser la question, bah, est-ce que ça nous concerne, nous, pour notre histoire, du moins du 20e, 21e siècle ? Bah oui, clairement, hein, parce que je vous avais parlé la semaine dernière de Mgr Hurdal. Bien, figurez-vous qu'on attend, et c'est l'info est vérifiée, on attend d'ici un an l'ouverture des archives du pape Pie XII. Je vous rappelle, c'est le pape qui a pris position de manière un petit peu faible, du moins c'est ce qu'on en retient dans l'histoire, par rapport au nazisme. Donc là, on aura accès, les chercheurs auront accès aux archives de ce pape, avec sans doute son lot de choses, sentant peut-être le soufre.